qui marque la violence des combats dans ce secteur pendant la Première Guerre mondiale, puisque c'est sur les terres du Nord et du Pas-de-Calais, et pas de la Somme, parce qu'à l'époque les deux régions n'étaient pas fusionnées, donc juste le Nord et le Pas-de-Calais, et ça représente déjà 600 000 personnes, selon les premières évaluations. Et donc la compétition qui a été donnée à... Il était 5 équipes d'architectes à concourir après sélection, et la compétition visait à construire ce mémorial sur cette emprise de terrain que l'État a donnée à la région pour y construire ce mémorial. Alors vous voyez aussi toute l'ambition, une nécropole nationale d'un côté, construite dans les années 1920, et de l'autre, un mémorial international à construire dans les années, dans le milieu des années 2010. Donc c'est évidemment deux ouvrages à un siècle presque de distance qui n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, le même programme, si je peux utiliser ces termes très fonctionnalistes, pour parler d'un sujet comme celui-là. La question qui est donnée, évidemment, c'est une question très, très, très prenante je me suis un peu interdit de me dire ça va être comme ci, ça va être comme ça, ça sera ceci ou ça sera cela. Je me suis dit il faut d'abord réfléchir à quelles sont les idées fortes, qu'est-ce que l'on veut transmettre et comment, pour le transmettre, quel monument on pourrait imaginer de construire pour réunir ces 600 000 personnes. Alors je fais le geste comme ça, le geste de la réunion, c'est pas forcément au départ l'idée que cela va être un anneau, c'est plutôt l'idée qu'une personne puisse se trouver placée face à ce monument ou au milieu de ce monument et découvrir d'un seul coup d'œil, si je puis dire, ces 600 000 noms réunis, c'est-à-dire qu'ils les réunissent par son regard. Et c'est ça qui me guide dans la recherche de la forme que peut prendre ce monument. Et c'est comme cela que je me dis, finalement, un cercle, il y a un point au milieu, et avec ce point, je peux décrire tout le cercle. Et ça veut dire que si je me mets au milieu de cette figure, je peux découvrir tous les noms d'un seul coup d'œil. Ça renvoie évidemment à d'autres choses, parce que quand on parle d'un mémorial international comme celui-là, on pense à la relation qui peut s'établir entre des hommes qui se sont combattus ou qui ont combattu les uns aux côtés des autres. Ça, évidemment, ça renvoie à des idées comme celle de la chaîne humaine qu'on forme en se tenant par la main, à des moments politiques qui ont pu être très forts, dans certains pays où la chaîne humaine a constitué quelque chose qui a bouleversé la politique. Et là, c'est cette idée aussi, par ce petit croquis, de se dire finalement, si on se place et qu'on peut découvrir tous les noms, quelque part tous ces noms se trouvent réunis et se donnent la main. Et l'autre idée que je souhaitais mettre en œuvre, c'est que quand on se trouve dans ce lieu, à un moment donné, on se trouve hors de l'espace et hors du temps. C'est ce petit croquis qui veut dire qu'on va se trouver là, et puis au-dessus de la tête, on a le ciel, sous nos regards ou nos pas, on a la terre, et tout autour de nous, on est enveloppé par ces noms. Donc c'est une manière de se mettre hors du monde, de se mettre hors du temps, de se mettre hors du lieu où on se trouve, mais pas pour s'y enfermer, pour le parcourir, et puis pour redécouvrir ensuite le lieu où on se trouve. L'autre élément très important, c'est un élément de la topographie, c'est-à-dire que ce site a été lieu de très violents combats parce que c'est une colline avec des formes de ravins, et que je me suis dit, il faut se faire de la nature un allié, de la topographie, sur la topographie s'appuyer, de manière à exprimer aussi la fragilité de ce que l'on est en train d'essayer d'imaginer. Parce que vous l'avez compris, ce monument, en fait, c'est une sorte de monument à la paix. Une sorte de monument pour dire « plus jamais la guerre ». Et en même temps, malheureusement, les événements depuis la création et l'inauguration du mémorial ont montré que la paix était fragile plus que jamais. Et je pense que le fait de travailler avec le relief et d'inscrire cet ouvrage comme une horizontale et qui se trouve à un moment donné au-dessus du relief qui dévale, c'est une manière de rappeler cette forme de fragilité, parce qu'à un moment donné, on va se trouver amené à l'intérieur du monument, en quelque sorte à marcher au-dessus du vide. Et on va aussi se retrouver à un autre moment à pouvoir passer sous ce volume qui sera au-dessus de nos têtes. parce que je ne voulais pas non plus avoir un monument qui soit une figure fermée, une figure close, je voulais au contraire qu'il soit ouvert, mais qu'en même temps on puisse se retrouver à l'intérieur sans être en contact direct avec le monde. Alors, ça fait beaucoup de contraintes et beaucoup de « je voudrais » ou « j'aurais voulu » ou « je veux ». Et il a fallu, évidemment, imaginer cette forme. Vous avez ici une petite maquette d'étude qu'on a fait au moment du concours, avec les courbes de niveau, du relief, la route, un chemin rural qui est un chemin qu'empruntent des randonneurs, et la parcelle de terrain sur laquelle que l'État a transmis à la région en lui disant bah, « écoutez, si vous voulez faire votre mémorial, vous l'installez là ». Tout ça, évidemment, s'est passé sous tout un comité de pilotage, piloté par des historiens, dont je rends hommage au plus important d'entre eux, qui était Yves Lemanner, enfin, qui est toujours vivant, d'ailleurs, et qui a eu la confiance du président de la région pour piloter ce projet, mais vraiment à tous les sens du terme, à la fois dans la façon de guider ce projet pour qu'il aboutisse, dans la manière de réunir les noms, et d'être capable de les ordonner par le simple ordre alphabétique, ce qui en soi est une gageure, et puis ensuite d'accompagner le projet, de veiller au projet pour qu'il aboutisse. Ici, la première maquette au moment du concours, où on met en place une ellipse. Alors pourquoi une ellipse? Eh bien tout simplement parce que 600 000 noms, quand on a commencé à travailler sur ce sujet avec Pierre Dichoulot, qui est artiste typographe, on s'est vite rendu compte que le cercle n'arriverait pas à contenir tous les noms. Et que cette emprise de ce terrain faisait que, bah, on va pas revenir, on est dans un établissement d'enseignement, mais on va peut-être pas revenir sur les formules de géométrie, mais vous voyez bien que si j'ai une limite là et une limite là, mon cercle, bah, il peut pas être plus grand qu'il ne peut. Et donc, l'idée d'étirer ce cercle pour être capable d'accueillir ces 600 000 noms est venue. Et puis l'idée de l'orienter et de le faire jouer à la fois avec la topographie et aussi avec la manière dont le soleil va mettre en lumière ces noms. Voilà, ça c'est un document au moment du panneau, du projet de concours. Alors, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe dans notre monde, celui des architectes, mais aujourd'hui les concours d'architectes se passent sous ce qu'on appelle l'anonymat. C'est-à-dire qu'on remet des panneaux, on dépose une enveloppe cachetée, et puis un jour il y a un jury qui se réunit, qui retire le papier, qui découvre les projets et qui émet un jugement et qui choisit un projet. Il n'y a pas d'oral, il n'y a plus d'oraux de présentation. Donc il faut évidemment arriver à être éloquent et à transmettre le projet pour que tout le monde comprenne. Parce que dans un jury vous avez des professionnels mais vous avez aussi des élus ou des historiens qui ne sont pas forcément des gens qui ont tant que ça l'habitude de lire des plans, des coupes, des élévations. Donc là, vous avez ce plan de masse qui montre la nécropole et qui montre à côté l'implantation du mémorial international de Notre-Dame-de-Lorette. On a conservé ici la statue d'un général et puis ici le registre de l'état civil où était conservé l'état civil de tous les combattants qui se trouvent dans la nécropole. La route, le chemin rural et donc l'idée qu'il fallait allier l'art et la nature pour les mettre au service de la mémoire. C'était ce que j'avais proposé. Ici, vous voyez l'idée qu'à l'extérieur, cet ouvrage va se présenter d'une manière qui parle de la guerre, qui est un gris acier ou gris couleur de guerre, totalement muet, aucune inscription dessus, parce qu'évidemment, ce qui est important, c'est les noms qui se trouvent à l'intérieur. Il ne s'agit pas de faire de la signalétique ou... c'est par ici l'entrée, ce serait un peu indigne, et je pensais que ce caractère très muet pouvait inscrire finalement avec plus de douceur dans le paysage l'ouvrage. Ensuite, pour y accéder, l'idée évidemment de travailler avec une saignée dans la terre pour descendre, parce que l'anneau est inscrit dans une partie du sol, et ensuite part à l'assaut de l'horizon et se trouve au-dessus du vide de par la déclivité du terrain. Et avec... L'architecte des bâtiments de France, à très juste titre, avait dit aux compétiteurs ça ne peut pas être un bâtiment ou ça peut pas être un monument vertical, parce qu'on ne peut pas rivaliser avec la tour lanterne, et puis ça n'aurait pas de sens. Et un deuxième critère est venu assez vite, je ne sais pas si on le voit bien là, peut-être pas, mais c'est que quand on est devant sur le parvis de la basilique, eh bien on a des croix, et je voulais que ce monument finalement ne dépasse pas la hauteur de ces croix qui sont devant le parvis. Donc qu'on soit inscrit dans le site et que ça n'empêche pas de voir la ligne d'horizon de la plaine de l'Artois. Donc, un peu encastré comme ça dans le sol, mais ce qui donne l'occasion du coup de descendre dans le sol et puis d'avoir une sorte de compression de l'espace avant de rentrer dans le grand espace et d'un seul coup de découvrir tous ces noms d'un seul coup. C'est ce qu'on voit ici. Et donc on voit ici quelque chose qui est d'une couleur au contraire dorée, parce que je pensais que l'important c'était de remettre en quelque sorte en vie ces noms et de leur accorder la couleur, quelque chose de plus chaleureux que ce béton gris couleur de guerre à l'extérieur. Et un autre élément qui est très important, c'est que face à ces 600 000 noms, il y a évidemment un effet de sidération qui peut se produire. Et je me suis dit, finalement, il faut qu'on arrive à trouver la manière d'allier le monumental pour faire montre de cette guerre extrêmement destructive de plein de vies qui auraient réalisé plein de choses formidables, sans doute, donc une perte pour l'humanité. Mais il faut aussi trouver le moyen, quand on cherche un nom, de ne pas se perdre dans cet effet de sidération, en quelque sorte. Et très vite, d'ailleurs ça, c'était aussi une réponse à la manière d'organiser ces 600 000 noms, est venue l'idée de déplier comme des panneaux qui formeraient comme les pages d'un livre, et qu'on puisse se trouver, à ce moment-là, quand on cherche un nom, à être comme devant un livre ouvert, en quelque sorte. Donc, c'est ce que vous voyez dans cette petite dentelure sur la maquette. Dans un deuxième temps, on s'est rendu compte qu'il fallait les organiser de la sorte. Ça, c'est un autre panneau, vous voyez, c'est pas très... panneau 3. Bon, c'est comme ça, c'est anonyme, on ne sait pas qui a fait le projet. Panneau 3, et donc, ces noms, ces panneaux de noms, comme des pages d'un livre. Et puis avec un autre élément de complexité, mais aussi d'ouverture sur l'extérieur, qui sont comme deux grandes fenêtres. L'une qui donne sur le bassin minier, et donc toutes les causes des combats qui se sont déroulés là, en quelque sorte. On voit les terris, qui peuvent mesurer 150 mètres de haut, donc qu'on voit comme des sortes de pyramides noires à l'horizon. Et puis on voit aussi le monument de Vigny, qui est deux grandes statues blanches qui s'élèvent comme ça, l'une qui représente l'Amérique, l'autre l'Europe. Et du coup, on peut mettre en relation ces deux collines. Et puis une deuxième fenêtre, depuis laquelle on va pouvoir découvrir Ablain-Saint-Nazaire et les ruines de son église en contrebas. Donc voir les effets aussi de cette guerre immédiatement. Évidemment, comme je le disais, le premier sujet de complexité, c'était de trouver la manière d'écrire ces noms, d'écrire ces noms pour qu'ils soient lisibles et pour qu'on puisse organiser les pages de ce livre. Là, ce sont des éléments avec lesquels Pierre Dichouliot a travaillé, avec les alphabets les plus anciens que l'on connaisse, les monuments les plus anciens. Les Grecs sont les premiers à avoir fait des monuments à leurs soldats morts en les nommant. Et donc, avec cette écriture très particulière où toutes les lettres sont alignées dans les deux sens, ou ici, les monuments romains avec leur caractère très particulier. Pierre Dichouliot a fait un travail considérable et qui était un des éléments, une des clés de la réussite de ce travail, c'était d'être capable de créer une police de caractère, c'est-à-dire un caractère spécifique qui réponde aux besoins de ce monument. La région Yves Le Maner nous avait donné une hauteur de lettres de 14 mm pour les grandes et de 11 pour les petites. Et il fallait, à partir de ça, être capable que cette lettre soit parfaitement lisible. Et à partir du moment où j'avais choisi de travailler sur un anneau qui fait et des panneaux qui font 3 mètres de haut, il fallait que les lettres soient parfaitement lisibles au pied du panneau comme tout en haut du panneau. Le jour comme la nuit, parce que ça a été aussi quelque chose de très important dans les décisions prise par ce qu'on appelle le maître d'ouvrage, la décision que ce lieu devait être ouvert en permanence. ouvert en permanence, ça veut donc dire éclairé la nuit, et ça veut donc dire qu'il faut qu'on puisse lire le nom, le jour comme la nuit. Yann Thomas, qui est un artiste lumière, a travaillé sur le projet. Il a d'ailleurs donné un beau titre à son œuvre lumineuse, qui s'appelle « La Grande Veilleuse ». Et cette œuvre lumière, c'est en fait autant de petites flashs, enfin autant de petites symphonies ou de petits concertos de lumière, de séquences qui éclairent de manière différente les noms, comme des vagues par panneaux, avec tel ou tel tempo. Tout ça pour dire que c'est tout un travail, évidemment, de toute une équipe pour réaliser un ouvrage comme celui-là. Et vous avez ici un panneau, un prototype, avec, éclairé par un projecteur, où on voit, ici, on est dans la partie des W, et où on fait un test pour voir si c'est bien lisible. Ce sont, évidemment, c'est des panneaux qui sont des panneaux d'acier inoxydable, d'un type particulier pour lui garantir toute la pérennité, et puis qui sont trempés dans un bain qui donne cette couleur jaune, et ensuite qui sont non pas gravés, mais griffés avec un laser pour retirer la pellicule et du coup retrouver la couleur de l'inox au naturel. Et évidemment, ce contraste entre le blanc et l'or est très important pour accroître la lisibilité. Mais le travail de Pierre va bien au-delà de ça. Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'écriture et à l'imprimerie, voyez par exemple le W formé d'une façon tout à fait particulière, de manière à accroître sa lisibilité. Et donc cette police, tout simplement, de caractère, Pierre l'a baptisée le Lorette. Avec un usage unique, parce qu'évidemment, à un moment donné, il a fallu communiquer et il a dit « Ah non, on ne communiquera pas avec le Lorette ». C'est pas une police de caractère pour des brochures de communication. Elle sera utilisée une seule fois et pour rien d'autre. Donc, voilà. Ensuite, l'organisation de cette liste de A jusqu'à Z. En démarrant dans ce sens et en tournant. Avec les deux fenêtres dont je vous ai parlé. Une là, une vers là, vers les bassins miniers et la crête de Vimy. Et là, vers Ablain-Saint-Nazaire. Et donc vous retrouvez évidemment toutes les lettres de l'alphabet et vous remarquez évidemment que toutes les lettres ne comportent pas le même nombre de noms. 500 panneaux sur lesquels on a une moyenne de 1200 noms, donc quelque chose de tout à fait considérable. Et vous avez ici la lettre A. Le premier nom sur le premier panneau, c'est un nom d'origine népalaise, A. Comme la lettre, tête comme prénom. Donc tout de suite, ça vous met face à cette dimension mondiale du conflit avec des noms de tous les continents. Donc c'est extrêmement impressionnant, c'est extrêmement fort, et avec autant de noms que d'hommes disparus. Je m'explique, Dixon John, vous imaginez bien qu'il n'y a pas qu'un Dixon John qui est mort dans ce territoire. Il y en a peut-être 20, il y en a peut-être 30, il y a 30 fois Dixon John. Donc c'était pas de raccourci, pas de simplification. Le nom et les prénoms qui figurent, il y a certains cas uniquement le nom, parfois un nom avec 6 prénoms, parfois un nom avec une seule initiale d'un prénom, c'est ce qui se trouve sur le livret de militaire de ces soldats. Donc une très grande diversité, si je puis dire. Et là, eh bien, vous voyez, faudrait que je mette mes lunettes, peut-être. Mais vous voyez des noms très divers, hein. Bell Johannes, Bella Singh, Beketoff, Beckert Alphonse, Beth Nat. Enfin, vous pourriez, en lisant ces panneaux, vous voyagez à travers le monde, en réalité. Ici, nous sommes au niveau du W. Et ici, ce déploiement de ces noms sur ces panneaux. Donc, c'était un sujet extrêmement important que d'être capable d'organiser ces noms qui nous sont parvenus petit à petit parce qu'il fallait réunir ces noms et ensuite les ordonner dans l'ordre alphabétique. Et 600 000 noms à ordonner dans l'ordre alphabétique, ça prend un petit peu de temps. Avec, pour chaque pays, ces difficultés, je parle des trois plus grands contributeurs, si je puis dire, Mais il y a le Portugal, comme je disais, qui est entré en guerre, ou d'autres. Mais pour les Britanniques, la Commonwealth Wargrave Commission a bien fait les choses. C'est-à-dire qu'il y a des fichiers informatiques. Donc il est très facile de savoir où sont tombés les soldats et de quelle origine ils sont, quel est le nom du père, de la mère, et ainsi de suite, leur métier ou leur statut. 24 clés d'entrée, c'est tout à fait considérable. Les Français, nous avions gardé les vieux livrets militaires écrits à la main, pas de saisie informatique, simplement microfilmés ou microfichés ou numérisés. Et donc là, une équipe de la région, de 4 personnes à temps plein, pendant plus d'un an, a relu les 1 400 000 pour repérer tous ceux qui étaient tombés dans ces deux départements. Pour les Allemands, le problème était autre. Les fichiers nationaux, si je puis dire, qui étaient à Berlin, ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il a fallu que, Länder par Länder, ils réunissent ces noms, avec une petite difficulté, l'écriture gothique. Donc là, ce sont quelques personnes d'un certain âge déjà, en capacité de lire le gothique, qui ont fait le travail. Donc un travail, je le cite, parce que quand on voit un ouvrage, un monument, on oublie tout ça, mais c'est l'histoire d'un travail de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et de personnes pour arriver à faire cela. Et donc, eh bien, nous, on recevait de A jusqu'à B, de B jusqu'à C, de C jusqu'à D. Et ça, c'est aussi très émouvant, parce que nous menions les études, le concours a été lancé à la fin de l'année 2011, le projet a été lauréat à l'été 2012, avec une date d'inauguration le 11 novembre 2014. Et les noms, il a fallu les réunir, les regrouper, les ordonner, et pendant que nous faisions nos études techniques, nos études architecturales, au fur et à mesure, nous recevions des listes de noms, dans le sens alphabétique. Et là aussi, quelque chose qui est assez étonnant, mais enfin qui est assez évident quand on y réfléchit. Selon l'origine, la nationalité, le nombre moyen de caractères n'est pas le même. Et de fait, quand on est dans un secteur, si je puis dire, qui est plus germanique ou plus anglo-saxon ou plus français, je simplifie encore, eh bien on a un nombre de caractères moyens différent. Et de fait, nous avancions en se disant l'ellipse grandit, l'ellipse se rétracte, l'ellipse en faisant des déductions. Heureusement, ça s'est en quelque sorte stabilisé à la fin et nous tenions dans le terrain parce que nous avions ce petit problème très cadastral, très basique, assez misérable, j'ai envie de dire, par rapport à ce sujet, mais qui est là, c'est qu'un terrain, c'est borné, c'est une limite de propriété. Donc on a réussi, finalement, cette ellipse tient dans ce terrain. Et là, vous avez ce dessin qui représente l'anneau entre la nécropole, ce que j'appelle quelque part la ville des morts, et puis la ville des vivants, qui s'est reconstruite au pied. Et on voit bien qu'il prend place, cet anneau, entre les deux. Alors une fois qu'on a échafaudé le projet, qu'on a réfléchi à ce projet, eh bien, justement, vous parliez tout à l'heure de Vauban. Vauban, il raconte comment il va voir sur le terrain ce que ça va donner avant que ce soit réalisé, avant le numérique, avant l'ordinateur. Alors, nous, on a tous ces éléments-là, on a simulé, on a fait des 3D, on a regardé ce que ça allait donner, mais c'est jamais la même chose que le réel, que le terrain. Parce qu'il y a le soleil, parce qu'il y a la terre, parce qu'il y a tout ça, qui fait que on ne peut pas simuler tout, et fort heureusement. Donc on est allé avec des piquets, avec le géomètre, et on s'est dit, maintenant on ne tient plus, on va planter des piquets pour voir ce que ça peut donner. Est-ce que l'échelle n'est pas trop grande, pas trop petite, qu'est-ce que ça va donner? Donc voilà, c'est une photo. J'aime bien montrer parce que c'est pour vous montrer qu'à un moment donné, on a beau avoir fait des kilomètres de dessins et des milliers d'heures de travail, on se dit quand même, qu'est-ce que ça va bien pouvoir donner? Et puis, les travaux commencent. Alors avant ces travaux-là, qui sont les travaux de gros œuvres, de structures, il avait fallu dépolluer le site, dépolluer pyrotechniquement le site. C'est un site qui a été dépollué à l'époque de la réalisation de la nécropole. Mais vous le savez peut-être, la gravité fait que tous les projectiles, comme les corps d'ailleurs, ont tendance à remonter à la surface. Et donc là, on a la dépollution qui a été organisée avant le chantier à proprement parler, a duré plusieurs mois, parce qu'il y avait 8000 cibles métalliques. Alors ça va du bout de fil de fer barbelé à la bombe de 500 kilos. Donc la granulométrie, comme on dit aujourd'hui, est très variable. Et puis une fois que ça a été fait, le chantier a pu commencer. Le chantier a commencé en janvier 2014 et il fallait livrer en novembre 2014. Alors, En général, les médias aiment bien parler des chantiers en retard. En général, on dit que soit c'est de la faute de l'entreprise, soit c'est de la faute de l'architecte. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour prendre ça sur ses épaules. Donc là, on n'avait pas le droit à l'erreur, parce qu'on ne décale pas la date de la commémoration du 11 novembre 2014. Et donc, tout projet a été conçu de manière préfabriquée. Tous les éléments sont préfabriqués, de manière à ce que, pendant que les travaux de dépollution se déroulent, on pouvait commencer à préfabriquer des pièces. C'était extrêmement important. Et évidemment, ce chantier a eu son lot de découvertes, de surprises. Vous en avez une ici avec l'équipe d'archéologues d'Arras, d'Alain Jacques, grand spécialiste de la Première Guerre mondiale, qui viennent de découvrir trois soldats superposés, si je puis dire. Et là, c'est le président de la région qui vient, c'était un comité de pilotage, je me rappellerai toujours, c'était le 12 juin 2014. On a comité de pilotage, il y a quelqu'un qui appelle, on est dans des bureaux, on vient de découvrir des corps. Alors là, on court sur le site, parce que le comité de pilotage, alors qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, ça passe au second plan. Et puis tout de suite, là, le président se retourne et il nous dit, vous êtes sûr que le nom de ces combattants est sur le mémorial? C'est évidemment... Bon, moi, je me tourne prudemment vers Yves Lemanner. Je sais pas trop quoi dire. Moi, j'ai pas constitué la liste. C'est horrible de dire ça. Il me dit, monsieur le président, évidemment, normalement, ils sont sur la liste. Il n'y a pas de problème. Après quelques jours, on retrouve la plaque d'un des soldats. Et ce soldat, tout de suite, il recherche et il est sur le monument. Pourquoi? Parce que dans les livrets militaires, ils sont portés disparus, mais on sait où ils sont morts au combat. Donc, en fait, tous ces noms avaient été réunis. Donc, voilà. Donc, un chantier qui n'est pas sans découverte, et sans découverte et sans émotion. Là, c'est pour vous montrer juste, en rentrer dans la technique, le fait que tous les éléments sont préfabriqués dans ce qu'on appelle un BFUP, c'est-à-dire un béton fibré à ultra haute performance, parce qu'en fait, cet ouvrage au sens ouvrage d'art, au sens où l'entendent ceux qui construisent des ponts, c'est vraiment un ouvrage d'art. C'est-à-dire que c'est un ouvrage qui, pour pouvoir être construit, a dû faire appel à toutes les techniques les plus en avance dans ce domaine. Et les bétons fibrés à ultra haute performance, ce sont des bétons qui ne comportent pas d'armature métallique. Vous avez tous vu déjà, je pense, des gens couler des voiles en béton avec des espèces de poteaux en ferraille ou des barres de métal repliées. C'est ce qu'on appelle le béton armé. Mais le béton armé ne pouvait pas résister aux efforts qui sont dans l'ouvrage, parce qu'il s'agit d'une ellipse et d'une portion d'ellipse qui est plus 60 mètres de long au-dessus du vide et qui est une portion dissymétrique. C'est comme si vous imaginez une voûte. Une voûte, c'est symétrique. C'est pour ça que ça transfère les charges qui descendent dans des piles. Ce qu'on trouve d'ailleurs en général dans les églises, c'est comme ça que ça marche. Les voûtes en plein cintre ou les voûtes d'ogive. Par contre, là... la topographie et l'organisation de cette ellipse font que c'est pas une portion symétrique de courbe. C'est une ellipse, donc déjà c'est pas une courbe à un arc brisé ou un arc plein cintre. Donc c'est une ellipse qui travaille différemment du point de vue statique et c'est une ellipse, une portion d'ellipse dissymétrique. Donc des efforts extrêmement importants. Et à deux endroits, l'architecte n'a pas eu d'autre idée que faire des fenêtres, évidemment. Là, les efforts dans la matière sont encore décuplés parce qu'il y a très peu de zones de contact entre les bétons. Et donc, il faut recourir à ces bétons fibrés à ultra haute performance qui sont des bétons faits de toutes petites fibres de quelques millimètres qui peuvent être minérales, organiques ou végétales ou métalliques et qui ne travaillent pas du tout de la même manière et qui sont extrêmement denses, ces bétons, et capables de résister à des efforts absolument colossaux. Donc, toutes ces pièces sont préfabriquées et sont mises en œuvre. Alors, évidemment, j'ai mis quelques photos du chantier avant de vous... parce que ça me semble très important, parce que c'est un chantier, et c'est un projet, je dois le dire, sur lequel tous ceux qui y ont participé ont mis beaucoup du leur, au-delà de ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans tout projet de construction. Aujourd'hui, les chantiers de construction, c'est souvent beaucoup de discussions, pour pas dire de débats et parfois de véritables guéguerres entre les architectes, les bureaux d'études, les entreprises, le maître d'ouvrage, ceci, cela, les contrôleurs techniques, tous ceux qui participent à l'acte de bâtir. Et là, certes, il y a eu des débats parce qu'il fallait être sûr d'être capable de le faire et de le faire dans les délais, Mais tout le monde y a toujours mis de l'allant, du cœur et une énergie. Et évidemment, je voulais rendre hommage à ses compagnons parce qu'ils ont eu la délicate mission de mettre en œuvre ces ouvrages préfabriqués. Vous voyez les parties horizontales sur lesquelles on va marcher, ce qu'on appelle des voussoirs qui sont reliés entre eux par des pièces métalliques, ou ce que vous voyez ici, des sortes de auvents qui viennent protéger les panneaux sur lesquels sont gravés les noms, et ça ne vous échappera pas à votre regard. Vous voyez que ce béfut qui permet de faire des choses qui ont l'épaisseur de quelques centimètres, que vous ne pourriez pas faire en béton armé. Vous voyez le nez de la dalle fait l'épaisseur d'un pouce. Ça, vous ne pourriez pas le faire en béton armé. Et vous ne pourriez pas construire l'anneau en métal parce que le métal ne résisterait pas aux efforts qui seraient dans la structure au-dessus du vide. Donc, un ouvrage extrêmement... Ce béton est extrêmement dense, extrêmement lourd, donc. Et du coup, il faut le placer en même temps avec une très grande précision. Donc, un travail qui demande de la force, si je puis dire, et de la précision. Et c'est évidemment tout cet assemblage parfait des éléments qui garantit la pérennité de cet ouvrage. Donc, des voussoirs, comme des voussoirs de pont, qui sont posés avec une tolérance de plus ou moins 2 mm. Vous voyez que ce n'est pas de la tolérance de gros œuvres. Il y a peut-être des entrepreneurs, des ingénieurs dans votre assemblée, je ne sais pas, mais ce sont des tolérances habituellement en centimètres. Là, c'est en millimètres, parce qu'il faut que les éléments soient parfaitement en application les uns sur les autres pour parfaitement se transmettre les efforts dans les parties où doivent se transmettre des efforts. La partie qui est encastrée travaille de manière verticale, donc il y a des fondations qui vont chercher le bon sol. J'ai oublié de le dire, le sol a été complètement bouleversé par les bombardements et donc il présente des poches de décompression, donc on ne peut pas se fonder bien sur ce sol, il faut descendre à 20 mètres de profondeur. Et sur la partie qui est au-dessus du vide, elle, eh bien là, les ouvrages sont tous ensemble, forment eux aussi une sorte de chaîne, et il faut qu'ils soient en adhérence parfaite. Donc voilà ces voussoirs. Alors ça pèse entre 10 et 14 tonnes, pour vous donner une idée. C'est levé avec une grue, et c'est mis en place sur un ouvrage provisoire, pour qu'ensuite on puisse retirer cet ouvrage, et du coup se trouver au-dessus du vide. Et là-bas, ce que vous voyez, ces panneaux blancs, ce ne sont pas des draps, ce sont des panneaux sur lesquels sont gravés des noms, mais qui sont protégés par un film parce qu'il a fallu les transporter, les amener, les installer. Donc vous voyez que les panneaux, au gré des livraisons, ont été petit à petit mis en place, et c'était aussi quelque chose de très intéressant. Là, on voit le voussoir avec son épaisseur, qui est fait pour qu'on puisse circuler à l'intérieur et vérifier que tout se passe bien. Et aussi des câbles, parce qu'on est obligé d'utiliser la précontrainte par post-tension, c'est-à-dire qu'on passe des câbles et ensuite on les tend pour que tout cet ensemble reste parfaitement solidaire. Et donc vous comprenez que les zones d'adhérence, les zones de contact peuvent se réduire à des petites bandes comme ça de quelques centimètres de large. Et si jamais vous êtes en biais et que ça n'adhère pas, eh bien ça peut exploser tout simplement parce que les efforts sont tels que ça va exploser. Donc, la précision est quelque chose d'essentiel dans la réalisation de cet ouvrage. Le voilà réalisé, posé sur son ouvrage provisoire. Et là aussi, voilà ce que ça donne à l'arrivée. C'est l'idée que je peux chercher un nom, je marche là, mais je peux aussi sortir ou rentrer dans l'anneau par en dessous. Et donc, j'ai deux accès. Un accès qui vient du parvis de la nécropole et un autre accès, si je suis randonneur, mais je peux aussi arriver comme cela, rentrer en quelque sorte dans l'anneau par la topographie, alors une photo comme faisaient les ingénieurs au 19e siècle, au début du 20e siècle, on n'a pas résisté, on s'est mis dessous pour montrer qu'on avait confiance, une fois le décoffrage réalisé, le désêtement, et évidemment ce jour-là on n'est pas peu fiers et contents de nous parce qu'on se dit on a réussi quelque chose d'important. Un des ingénieurs qui a travaillé sur le sujet, Jean-Marc Veil, à mes côtés, et le chef de chantier ici, le conducteur de travaux, enfin toute une partie de l'équipe, pas tout le monde, mais quand même une partie importante, et on s'est fait une petite photo de famille pour se dire, ça y est, on est arrivé, ça tient. Parce qu'on se dit toujours, le calcul, c'est calculer, recalculer, re-recalculer, il y a des essais, des simulations, mais le réel, c'est quand même encore autre chose. Ça peut faire ponk comme ça d'un seul coup et que là, on se dit qu'est-ce qui se passe. La mise en œuvre de cette descente dans l'anneau que vous voyez ici, qui s'est mise en place aussi avec des coffrages très particuliers et qui s'est faite, là aussi, vous le voyez, de manière assez précautionneuse. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder l'ouvrage tel qu'il est réalisé et que l'on voit depuis le parvis qui relie en fait la nécropole au mémorial. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, qu'Aitor ici a très bien révélé, c'est que l'anneau est travaillé pour que la ligne, il ne bouge pas la ligne d'horizon en quelque sorte. Vous avez ici la descente, qui sont deux voiles courbes et qui vont en se rapprochant, ce qui fait que petit à petit on est de plus en plus seul ou presque à rentrer dans l'anneau. Et puis vous voyez bien le contraste entre ce béton couleur de guerre et puis ces panneaux qui sont éclairés là, au soleil couchant et qui prennent leur place dans le paysage. Une autre vue ici, de l'autre côté, donc tout ça tourne évidemment, ça tourne sous le sens. J'ai pas besoin de l'expliquer, je crois, c'est pas la peine. Ah oui, là, c'est un peu lourd. Ces photos sont peut-être un peu lourdes. Et voilà, sous un soleil plus zénithal, la manière dont on va descendre à l'intérieur. Cette sorte de descente comme ça qui se fait. À un moment donné, vous voyez les têtes des visiteurs à l'intérieur qui descendent, et puis ceux qui sont à l'intérieur, on découvre les deux en même temps. Vous voyez au fond les terris, ici, les masses comme ça énormes. Et puis quand j'arrive enfin, eh bien, j'ai cette découverte, d'un seul coup, je vois ces noms face à moi. Avec ici une des fenêtres dont je vous ai parlé. Alors Yves Le Manner a été terrible parce qu'à un moment donné, les contraintes techniques étaient telles qu'avec Lucas Mont-Saint-Jean, avec qui a suivi tout le projet et les études à mes côtés, on s'était résolu à se dire, bon, on est dans un site militaire, on va peut-être faire une ouverture qui ressemble plus à une meurtrière, ça fera 11 cm de large. Bon, Raphaël Fabry, l'autre ingénieur qui travaillait là-dessus aussi, on se disait, bon, c'est très difficile, est-ce qu'on va y arriver? Bon. Et Yves, un jour, a dit, ah, mais ça, c'est pas possible. Sur le projet de concours, il y avait une fenêtre, une vraie fenêtre, que je peux mettre à ma fenêtre, je veux qu'on puisse se mettre à la fenêtre. Donc, les ingénieurs ont repris leurs calculs, l'entreprise qui était FHTP, l'entreprise de travaux publics, donc l'entreprise qui réalise des ponts. On avait comme un interlocuteur qui est Claude Servant, qui est le patron du bureau d'études interne de l'entreprise qui a veillé à la réalisation du viaduc de Millau. Donc c'est de dire que sur un sujet comme celui-là, on a eu droit aux personnes les plus qualifiées, les plus compétentes. Et Claude Servant, avec ses équipes, une quinzaine d'ingénieurs, ils se sont cassés la tête, ils ont essayé de trouver des solutions, ils ont fait contre-calculer par d'autres bureaux d'études pour voir s'ils trouvaient les mêmes résultats. Enfin, et un jour, le 13 décembre 2013, je me rappelle du 12 juin et du 13 décembre, oui, 13 décembre 2013, grande réunion à Noisy-le-Grand dans les bureaux, au bureau d'études, et là, ils nous disent, ça marche maintenant, ça marche, mais il va falloir, monsieur l'architecte, on parle comme ça, hein, c'est pas si fréquent aujourd'hui, hein. Il va falloir, je sais pas si vous allez accepter, parce que ça risque de déformer votre œuvre. Alors là, c'est pas encore moins fréquent qu'on parle à un architecte de son œuvre. Et il me dit, on va avoir une flèche de 6 cm. Une flèche, c'est, vous savez, quand vous avez quelque chose qui est comme ça, c'est si ça plie un peu au milieu, la différence entre l'horizontale et la déformation, c'est ce qu'on appelle la flèche. Imaginez une corde d'un arc que vous tendez, 6 cm. Et il me dit, je pense que vous allez refuser. Alors je le regarde, je me dis, est-ce qu'il blague, est-ce qu'il est sérieux? Bon, et je lui dis, mais 6 cm sur 60 mètres sur une portion de courbe dissymétrique, vous pensez vraiment que ça va se voir? Ah oui, 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 ça va se voir, et il faut, on peut pas se permettre ça. Alors, bon, on discute comme ça, puis à un moment, je lui dis, mais écoutez, moi je suis sûr que ça se verra pas. Ah bon, il me dit, si vous êtes sûr, alors là on a la solution, on y va. Donc on y est allé. Et aujourd'hui, en fait, on a une flèche. Vous voyez que ça vous semble sans doute totalement horizontal. On a une flèche de 2 cm. C'est pas grand-chose. 2 cm, c'est un morceau de pouce. Mais c'est, évidemment, c'est totalement invisible. Mais c'est pour vous dire le niveau d'exigence avec toute son équipe qu'il s'était donné. C'est-à-dire vraiment l'idée d'accomplir le dessin dans sa perfection. Et c'est, je le souligne, il n'est pas seul. Hein, il y a toute une équipe autour de lui. Et toute cette équipe a contribué à faire ce travail. Et c'est très important, c'est pour ça que j'en parle. À la fois ceux qui vont réaliser ces pièces de préfabrication, qui ont été préfabriquées en Seine-et-Marne, à Mormant, avec Matteo Renzi, qui est le patron de l'entreprise, qui a réalisé ces éléments. Ensuite, ces panneaux métalliques qui ont été fabriqués et produits par l'entreprise Citinox à Alès, dans le Gard. Donc, toutes sortes de savoir-faire qui viennent un peu partout pour arriver à réaliser cela. Et là, vous voyez les deux silhouettes qui arrivent à l'intérieur de l'anneau. Et puis des groupes. Alors, on n'a longtemps pas eu de photos avec des groupes, enfin de bonnes photos d'un photographe. Moi, j'en ai fait des petites avec mon iPhone, mais c'est pas terrible. Et Aitor a pu retourner sur site pour prendre de nouvelles photos. Et là, on est content parce qu'on peut montrer qu'il y a du monde. Parce que c'est ça, d'abord, la première chose, c'est qu'il y a énormément de visiteurs. Il y a eu 700 000 visiteurs. Et ce monument, il est pratiqué par toutes sortes de personnes. Des personnes qui viennent très clairement chercher un nom, mais aussi des gens qui habitent dans les parages, si je puis dire, et qui, quand ils ont quelqu'un qui vient déjeuner à la maison, les emmènent voir le monument. Et vous l'avez vu aussi, je pense, à travers les photos, le monument est totalement ouvert. Et ça, c'était aussi une volonté de Yves et du président de la région, c'est-à-dire de dire, la nécropole avait été vandalisée, avec des inscriptions à caractère nazi, ainsi de suite, sur le carré musulman et le carré juif de la nécropole nationale. Et le président avec Yves disait, en fait, paradoxalement, il n'y a jamais ça dans les cimetières du Commonwealth. Ils sont toujours ouverts. On peut rentrer quand on veut. On va faire le pari que ce monument, il va tout le temps être ouvert. Alors évidemment, il y a quand même quelques petites caméras reliées à la gendarmerie parce qu'on peut se faire voler des plaques de métal, on peut avoir un déséquilibré, on peut avoir quelqu'un qui veut taper sur la plaque, enfin on peut avoir toutes sortes de choses. Mais en tout cas, le monument est tout le temps ouvert. Et donc, on peut le visiter de jour comme de nuit. Et vous avez ici donc la vision de cette poutre, comme ça, avec le paysage au lointain, et puis la nature qui rentre un peu comme ça dans le cœur de l'anneau. Ici, ces fenêtres dont j'ai parlé, qui nous ont occasionné tant de soucis pour arriver à les réaliser telles qu'on les avait dessinées. Ici, une vision, là encore, les terris dont je vous parlais tout à l'heure. La colline de la crête de Vimy est ici, en face. Et ici aussi, ce qui est apparu, c'est le fait que finalement, cette forme, à un moment donné, réunit le passé et le présent. C'est-à-dire que la basilique, elle se trouve comme incrustée à l'intérieur de l'anneau. Et ça, je dois dire, très honnêtement, je n'y avais pas pensé. Mais sur site, quand on a commencé à construire, je me suis dit, ça va être formidable parce qu'on va voir l'un dans l'autre. C'est-à-dire une sorte de fusion entre les deux. La nécropole Notre-Dame de Lorette est gardée par des gardes d'honneur. C'est une association qui a été créée dans l'après-première guerre mondiale et qui fait qu'il y a toujours des gens qui gardiennent cette nécropole. Et au départ, les gardes d'honneur, il faut le dire, ils étaient assez hostiles à ce projet parce que ils voyaient quelque chose qui allait entrer en concurrence avec leur nécropole, quelque chose qui était international, qui mélangeait tous ces noms alors que c'est une nécropole nationale destinée aux souvenirs. Et on peut comprendre, ils étaient assez inquiets, certains choqués, d'autres trouvant que ça pouvait peut-être être bien, mais fallait voir, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, ce qui est aussi un élément important de l'histoire et assez formidable, c'est que finalement, bien souvent, ce sont les gardes d'honneur qui font visiter le mémorial, l'anneau. Je ne voulais pas montrer dans les groupes, mais il y en avait un qui était là avec un groupe d'écoliers. Et en fait, ils se sont appropriés cet endroit. Et du coup, les deux vivent ensemble et je pense qu'ils participent l'un à l'autre à une compréhension du site dans son ensemble. Voilà le chemin rural qu'on a un peu retravaillé pour qu'il puisse être carrossable. C'était une exigence de la sécurité pour les jours de célébration. Et ici, vous voyez cette portion de courbe au-dessus du vide, le paysage, le visiteur au lointain. Et puisque, selon je vous parlais, la nuit, donc tout cet ensemble de panneaux est éclairé. Il est éclairé et il est mis en lumière par ces vagues de lumière qui se déploient à l'intérieur. Donc tout un travail pour le faire battre un peu ce cœur ou cet anneau. Si le personnage qui est tout seul dans la fenêtre au soleil couchant, et aussi après le regard des photographes. Aitor, on s'est trouvé très proche pour faire ce travail. Catherine qui est présente dans la salle l'a accompagné, à organiser tout cela pour que ça puisse déboucher sur une vision du site. Enfin, Catherine, c'est ma femme. Hein. Catherine, c'est peut-être, on ne sait peut-être pas qui est Catherine, alors donc je me dis d'un seul coup. Bon. Et ensuite, avec Catherine, on a eu une surprise extraordinaire, c'est que le 13 novembre 2014, on découvre sur le net, parce que le net, ça peut être terrible, mais ça peut être aussi formidable, et on découvre les photos d'un photographe anglais, facile de se rappeler son nom, Howard Kingsnorth, ça s'oublie pas, un nom pareil, photographe de publicité, vous savez, ces photographes qui font des photos de Audi qui sont quelque part dans le Nevada, ou d'hélicoptères, et il fait des photos, alors on est époustouflé, des photos du monument à l'automne, en fait. Et voilà ce que ça donne, c'est-à-dire que quelque chose, un autre regard. Donc c'est vrai que ce monument, ce qui est aussi une source de satisfaction, c'est que, comme on le disait avec Bernadette, eh bien, en fait, il vit sa vie en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il vit sa vie et on a comme ça de temps en temps des découvertes avec un photographe très sympathique qui nous dit mais oui, mais pour vous, elles sont libres de droit, mais parce que sinon mes photos d'habitude sont très chères. Voilà une photo assez magnifique et qui vous montre d'ailleurs, c'était la seule photo qu'on avait jusqu'alors d'un vrai photographe où on voyait du monde, hein, 13 novembre, il pleut, vous voyez un temps, j'allais dire presque british, mais il n'y a pas qu'en Grande-Bretagne qui peut pleuvoir. Ici, il y a une autre photographe qui a pris une photo sous la neige et c'est là qu'on voit que ce monument, eh bien, il a sa vie selon les moments. Une photo ici assez incroyable, c'est plus la terre et le ciel, c'est la neige et le ciel, c'est évidemment très beau dans ce contexte. Et ici, la photo d'une personne de l'historial de Péronne, qui a fait visiter le monument et qui a eu la gentillesse de nous donner cette photo qu'elle a fait au printemps. Alors c'est une photo d'amateur, mais qui est assez émouvante, où il y a une très belle lumière, il y a ces ciels qu'on a dans les pays du Nord. Voilà, bon, je vais arrêter là parce que sinon on pourrait continuer. Et là, cette vue depuis la tour Lanterne, où on devine l'anneau, où on voit évidemment au premier plan les sépultures et les croix du cimetière, de la nécropole. Et donc le village dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'est reconstruit. Et c'est vrai qu'ici, si on ne savait pas cela, on ne peut pas imaginer la violence des combats. Plus de 100 000 morts pour s'emparer de cette colline. Des échelles absolument démentielles, évidemment. Alors, j'ai mis cette photo parce que dans les petits éléments, dans les objets qui sont présentés dans la tour Lanterne, dans une sorte de tout petit musée, il y a les ouvrages, les pièces que je vous ai montrées tout à l'heure, cette plaque d'un soldat, ce carnet perforé, et puis il y a cette bague. Et moi, j'y avais pas prêté attention, évidemment, mais dans ce qu'on fait, il y a souvent des choses qui nous dépassent un peu. Et Aitor a fixé comme ça cette bague avec son appareil photo. Elle est très jolie cette photo parce qu'on a l'impression que la bague est elle aussi un peu en lévitation, elle provoque son ombre. Et donc je me suis dit finalement, bon, on est bien peu de choses. C'est comme ça. Il a pris une autre photo évidemment qui est lourde de sens, paix, donc qu'on trouve sur un panneau. Et c'est par cette photo que je voulais conclure. Et en vous montrant cette silhouette un peu nocturne comme ça de l'anneau. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Ah oui, alors j'avais dit à Bernadette qu'il y avait une phrase qu'elle voulait citer, mais je lui ai dit non, je vais la citer. Bon, alors je vais la citer parce que sinon je vous l'aurais prise, mais pour rien en faire. C'est une phrase qui m'a beaucoup plu parce que sur le chantier de la Monnaie, le bâtiment de la Monnaie à Paris est un bâtiment qui a été construit par Jacques-Denis Antoine, qui est un architecte de la fin du XVIIIe siècle. Et une phrase dans sa biographie qui dit la chose suivante. Les beaux-arts ont cela de particulier que les hommes s'y créent eux-mêmes. Et donc, ça me semblait entrer en résonance avec votre sujet.
Voilà.